Bonjour à tous. Alors, je viens faire une petite vidéo coup de gueule. J'ai deux petits mots à dire à Monsieur Macron et son gouvernement. Quand est-ce que ça va se terminer, la traque aux conducteurs que vous avez mis en place depuis que vous êtes là? Parce que là, on atteint des sommets. J'ai fait une petite liste de ce qu'on subit depuis que vous êtes là, mais on en a plein les bottes, c'est clair? Où va la France, Monsieur Macron? Où va la France? Certainement pas là où vous avez dit que vous l'emmèneriez.
L'internaute Jacqueline Mourot, au début de la contestation, on était le 27 octobre 2018, une vidéo postée sur YouTube. Dans l'actualité des idées aujourd'hui, le mouvement des Gilets jaunes a-t-il ubérisé la contestation, notre bonne vieille contestation sociale? Les réseaux sociaux, plateformes d'échange et lieux de diffusion de la contestation où la colère devient virale, vont-ils permettre au mouvement de se structurer? Peuvent-ils se transformer en incubateur d'idées? Pour en parler, notre invité Fabrice Eppelboin. Bonjour.
Bonjour.
Enseignant à Sciences. Vous avez précédemment animé l'atelier numérique spécialiste des réseaux sociaux. Au lendemain des annonces du Premier ministre, on avait pu voir des commentaires d'internautes s'enflammer sur le mode « ils nous ont fumé ». Est-ce que la réaction à l'intervention d'Emmanuel Macron hier soir à la télévision a été elle aussi immédiate, voire aussi virulente sur les réseaux hier soir et dans la nuit ?
Elle a été, à mon sens, plus virulente encore, dans la mesure où Édouard Philippe ne fait pas l'objet de cette cristallisation et de cette haine, alors que Emmanuel Macron est dans une situation absolument terrible. Et effectivement, ça s'est ressenti sur les réseaux sociaux à travers une analyse très rapide des différentes propositions qui consistaient à dire que, très clairement, le problème n'avait pas été saisi ou avait été à peine effleuré.
Pour l'exécutif, les revendications sont tellement hétérogènes pour l'instant qu'il est difficile d'ajuster la réponse politique. Mais c'est vrai qu'Emmanuel Macron sortait hier d'un long silence. Sa parole était très attendue. Pour notre invité, le philosophe Marcel Gaucher, hier à la grande table, c'était moins le fond que le ton qui allait l'emporter. Il fallait, disait-il, qu'Emmanuel Macron se disrupte lui-même, qu'il fasse preuve d'humilité. Sur la forme, non plus. Il n'a pas vraiment convaincu.
Sur la forme, à titre personnel, j'ai eu l'impression d'avoir affaire à quelqu'un qui avait passé énormément de temps à des activités comme le théâtre et Marivaux lors de son adolescence et qui en avait été profondément imprégné. C'est très agréable. Je ne suis pas sûr que ça participe à un sentiment de proximité avec le peuple.
Mais il y a eu des mots. Mon seul souci, c'est vous. Je vais tout de suite répondre à vos préoccupations. Un sentiment d'une immédiateté dans la réponse.
Je crois qu'il y a un problème de compréhension, en fait, de ce qu'est ce mouvement, de ce que sont et ce que veulent dire ces revendications qui ressemblent à un inventaire à l'après-vert, de ce à quoi on a affaire. Et tant que ce mouvement n'est pas compris en tant que tel, il ne peut pas y avoir de réponse.
Alors revenons aux réseaux sociaux, qui sont aussi votre spécialité. On a beaucoup dit que ce mouvement des Gilets jaunes était né sur Facebook, la plateforme bleue. Des réseaux qui font tout sauf baisser la température, diriez-vous, Fabrice Eppelboin, depuis quelques semaines. Pourquoi ce mode de circulation de l'information ne favorise ni l'apaisement, ni la nuance?
Alors en fait, ce qu'il faut commencer par comprendre, c'est de construire la compréhension que la plupart des gens ont des médias sociaux. Et commencer par s'attaquer à ce mot, médias sociaux, ce mot qui est une invitation à la paresse, une invitation à ceux qui ont compris ce que c'était que les médias, à construire un savoir cognitif à partir d'une fondation qui n'est fondamentalement pas solide du tout. Ce ne sont pas des médias sociaux, ce sont des réseaux sociaux. Et ils viennent se substituer non pas aux médias, mais pour les médias papier par exemple, au NMPP. Ce sont eux qui assurent désormais la distribution des contenus fournis par les médias, mais pas que, à un nombre grandissant de personnes. La moitié des Français, grosso modo, ont accès à l'actualité à travers Facebook. Et donc cette fonction de distribution, elle est passée d'une simple fonction de livreur au XXe siècle, qui acheminait les journaux jusqu'au kiosque, à un algorithme extrêmement complexe, qui prend en compte une multitude de paramètres et qui, de temps à autre, évolue pour les besoins, la plupart du temps financiers, essentiellement financiers, de Facebook. Ce à quoi on a affaire, c'est à un transfert ces 10 dernières années de l'influence des médias et des contenus vers la distribution de ces contenus. Et cette influence est aujourd'hui essentiellement dans les mains de deux acteurs, Google et Facebook, qui sont deux acteurs qui plus est, se repose sur de l'algorithmie extrêmement complexe et sur une surveillance généralisée de la population pour acheminer la bonne information à la bonne personne en fonction d'impératifs financiers. On en est là. Et donner une partie de l'infrastructure sociale dans une technologie qui plus est, qui n'est pas sous souveraineté française, pose d'immenses problèmes. c'est pas la première fois que ça arrive, hein, le printemps arabe, c'est précisément ça. Et on est dans un phénomène qui est de l'ordre de l'insurrection pouvant tourner à la révolution, et beaucoup pourraient tout à fait arguer qu'on est déjà passé dans un mode qu'on peut qualifier de révolutionnaire, qui effectivement est né du fait de la possibilité offerte par les médias sociaux. Évidemment, il faudrait pas que cet état
quelle
de fait...
possible, quelle possibilité est donnée?
Alors, très concrètement, au début de l'année, Mark Zuckerberg, qui à l'époque était encore une star presque auréolée, a entamé une grande tournée aux États-Unis que beaucoup voyaient comme un début de campagne électorale pour les prochaines échéances présidentielles américaines. Ça s'est mal terminé avec l'affaire Cambridge Analytica, il n'a aujourd'hui plus la moindre rivalité politique, mais toujours est-il que cette tournée a été clôturée par un changement d'algorithme de Facebook qui a consisté à donner une priorité au groupe, c'est-à-dire aux gens qui essayaient de construire quelque chose ensemble par rapport aux pages, hein, qui sont des éléments traditionnellement issus d'une logique média, où les médias typiquement déversent leur contenu, et de donner une priorité à la proximité géographique. Ce qui fait que très concrètement, votre flux d'informations fourni par Facebook, qui pour la moitié des Français représente la façon de voir le monde, vu que c'est leur seul apport d'actualité, ce flux d'informations, du jour au lendemain, a été orienté vers le voisin plus que le média, et le voisin qui se regroupe pour faire quelque chose ou pour partager des choses, plutôt que la page média qui finalement n'a pas tant de proximité de ça. Et ça a donné un univers informationnel qui a basculé du jour au lendemain et qui a permis une accélération de la rencontre, de l'échange, et de l'échange qui s'est fait sur la base d'une grogne sociale préexistante, évidemment.
Alors un changement d'algorithme présenté comme une avancée, comme un progrès, comme une amélioration par les responsables de Facebook. Écoutez.
Les gens viennent sur Facebook pour se connecter aux personnes qui comptent pour eux. Et le défi de nos équipes cette année est de vous aider à avoir des interactions plus profondes avec vos proches. On utilise un processus de classement pour déterminer quels posts apparaîtront dans votre fil d'actualité et dans quel ordre, en se basant sur ce que l'on pense qui vous intéressera le plus. Un j'aime, un commentaire ou un partage sont des signes qu'un post est important pour vous. Donc ces posts sur lesquels vous êtes susceptible d'interagir ont un classement plus élevé que d'autres. Mais maintenant, on va aussi se demander si l'interaction est entre vous et un ami ou vous et une page gérée par un annonceur ou une entreprise. L'interaction entre personnes sera plus valorisée qu'entre une personne et une page. Les interactions entre personnes de votre réseau seront celles qui seront le plus mises en avant, car interagir avec ses proches est ce qu'il y a de plus profond.
Interagir avec des gens en discutant ou en se remémorant des moments passés ensemble est associé à plus de bien-être, surtout quand cette personne est un proche et que l'interaction demande un effort. Par exemple, taper une longue réponse au poste d'un ami. En revanche, se contenter de regarder son fil d'actualité en lisant passivement, sans interaction, a tendance à rendre les gens plus malheureux.
Au final, nous espérons que les gens verront plus de posts de leurs proches et moins de posts d'annonceurs. Nous nous attendons à une baisse du temps passé sur Facebook. Mais notre but est que le temps passé sur Facebook soit meilleur.
Alors, est-ce que cette interaction, comme nous disent ces jolies voix, Fabrice Ebelpoint, vaut plus de connexion, vaut plus de bien-être ?
Plus de bien-être, c'est très discutable, mais plus de connexion, plus d'inclusion, plus de proximité, plus de lien social dans son entourage proche, retisser un lien social qui avait été, il faut être honnête, gravement atteint par la destruction des centres-villes liés à la grande distribution. Tout ça, effectivement, Facebook a largement contribué à un effort d'inclusion sociale. Le problème, c'est que l'inclusion sociale, ça fait aussi naître ça révèle, si ce n'est faire naître, des problèmes sociaux, et c'est très précisément ce qui s'est passé. Mais l'intention politique de départ de Facebook était
parce qu'il y avait une
sociale.
Intention politique.
C'est clairement une intention politique. Quand vous décidez tout d'un coup de déconnecter des gens dont le métier c'est de diffuser en masse de l'information pour essayer de les reconnecter entre eux, on a très clairement affaire à une intention politique. Ça va avoir des effets partout. Il se trouve que le premier grand effet qui est évident, qui nous saute aux yeux, c'est les gilets jaunes en France, mais il est vraisemblable qu'on découvre tout un tas d'effets de bord un peu partout sur la planète. Facebook, aujourd'hui, c'est 2 milliards d'utilisateurs. Ce changement d'algorithme a affecté 2 milliards d'utilisateurs dans plus d'une centaine de pays. Et dans plein de pays, Facebook est l'alpha et l'oméga du tissu social, bien plus qu'en France, bien plus qu'en France.
Et pour vous comprendre, Fabrice Ebelpoint, quand vous dites qu'aujourd'hui, ce mouvement des gilets jaunes n'est pas né par Facebook, mais de ce changement d'algorithme, c'est qu'il l'a en tout cas amplifié ou accéléré. Il a permis ce regroupement par cette fonctionnalité groupe d'avis, de sensibilité, d'affinité commune. Et si cet algorithme n'avait pas changé, ces groupes se seraient constitués beaucoup moins facilement. Ou c'est
peut-être que d'autres groupes se seraient formés ailleurs, que d'autres pages auraient pris le rôle des groupes. Facebook, de toute façon, interfère tellement dans l'infrastructure sociale en France comme ailleurs qu'il aurait fini par taper sur un point sensible de la société, et Dieu sait qu'il y en a énormément. Là, c'est la conjonction entre ce tournant mis sur la proximité et l'inclusion sociale décidée par Facebook cet été et toute une série de gouttes d'eau qui s'apprêtaient à faire déborder le vase. Je pense notamment aux 80 km/h qui ont généré énormément de frustration pour tous ceux qui utilisent leur voiture dans les zones rurales dans lesquelles les gilets jaunes sont apparus, ou d'autres frustrations évidemment comme les taxes. Au bout d'un moment, le vase a débordé, la grenouille est sortie de la casserole d'eau qui est sur le feu, et à partir de là, il faut faire face aux conséquences.
Une fonctionnalité groupe très utilisée par les gilets jaunes qui a renforcé l'effet bulle de filtre, où l'utilisateur est enfermé dans des contenus qui renforcent ses propres croyances et certitudes, dit l'un de vos confrères, Olivier Hertzschey, chercheur en sciences de l'information et maître de conférences à l'université de Nantes. Facebook, c'est peu ou prou 38 millions d'utilisateurs en France. On voit, on commence à percevoir avec vous comment le mouvement s'est organisé depuis ses débuts sur le réseau social de Mark Zuckerberg. On n'a pas évoqué ses pétitions, ses appels à bloquer, puis à manifester qui se sont lancés sur les réseaux, avec des pages qui ont été de plus en plus suivies au fil de la consultation, de la contestation. Je dis des pages, vous voyez, travers qui me rattrape, des groupes au fil des jours. Quel rôle ont joué les réseaux sociaux dans cette constitution, puis dans sa structuration? Ils se sont saisis, les gilets jaunes, d'un outil d'information et d'expression, là où l'espace médiatique traditionnel leur restait fermé. C'est aussi ce qu'on entend beaucoup. Vous êtes d'accord avec ça, Fabrice Eppelboin?
Totalement. L'espace médiatique aujourd'hui représente l'opinion publique de à peine un quart des Français. On est parti très étonnamment, si on peut dater la naissance de l'espace médiatique dans lequel nous vivons aujourd'hui, des années Mitterrand, où il a explosé suite à son arrivée au pouvoir et à la libéralisation des médias. Et puis, à partir de la fin des années 90, on a assisté à un phénomène de repli sur soi. On a commencé par exclure du champ médiatique des personnalités telles que Jean-Marie Le Pen, lors de son détail de l'histoire de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, des gens comme Dieudonné, puis ensuite, de façon beaucoup plus massive, tous ceux qui avaient osé voter non au référendum de 2005. Aujourd'hui, force est de constater que ces gens-là sont très, très, très largement majoritaires et qui plus est, sont réfugiés sur Internet depuis une génération. Donc, ils y ont développé un savoir-faire dialectique, ils ont développé des échanges d'idées, des courants politiques, une multitude de choses qui n'apparaissent jamais dans les médias mainstream ou alors à des fins de caricature. Ça nous donne des épisodes tragicomiques, comme la confrontation entre Bruno Jeudy et un faux gilet jaune sur le plateau de BFM, où tout d'un coup, on voit un éditorialiste qui symbolise parfaitement l'univers médiatique dans lequel nous sommes aujourd'hui enfermés, et s'affoler à l'idée qu'un gilet jaune puisse être capable d'articuler une pensée politique. Si on regarde les sous-cultures d'Internet, vous allez découvrir des milliers, si ce n'est des centaines de milliers de personnes qui débattent du droit constitutionnel avec passion et parfois avec maladresse depuis une décennie.
Vous présentez un peu tous les gilets jaunes comme les tenants d'une parole extrémiste, censurée habituellement dans les médias traditionnels, contraire, beaucoup d'entre eux disent qu'ils sont plutôt les invisibles de cet espace médiatique avec une parole populaire qu'on entend peu traditionnellement.
Très objectivement, je fais référence à un incident où on avait un gilet jaune qui demander des comptes sur la privatisation d'éléments stratégiques de la France comme les barrages réalisés par quelqu'un qui est un proche ami de notre président. Je pense pas que ça relève de l'extrémisme, mais effectivement c'est une parole qu'on n'entend pas. Et ça, c'est un vrai problème et une vraie interrogation qui s'adresse aux médias. La réalité, c'est que les systèmes, l'espace médiatique mainstream constitue en tant que tel une bulle.
Ou un filtre.
Une bulle. Il y a une première bulle qui s'est formée dès la fin des années 90 de façon diffuse sur Internet. Des gens qui se sont réfugiés dans les pages perso, puis qui ensuite ont vu l'arrivée des blogs, et ensuite du web 2.0, et puis des réseaux sociaux, et qui ont maintenant des pratiques militantes qui ont 20 ans derrière elles. Et puis il y a une autre bulle qui s'est créée à peu près à la même période, avec l'apparition un peu partout dans les banlieues d'antennes satellites pour capter Al Jazeera et pour plonger dans une autre bulle. Et au final, nous sommes aujourd'hui dans une société constituée d'une myriade de bulles et dans laquelle la bulle dominante ne représente pas du tout la majorité, et c'est le problème de démocratie que nous posent les Gilets jaunes de façon criante.
Donc les réseaux sociaux, j'ai pas dit médias sociaux, sont un espace plus démocratique, un espace médiatique plus démocratique ?
C'est difficile d'aborder les réseaux sociaux en qualifiant ça de démocratie, mais toujours est-il que on trouve dans les réseaux sociaux des communautés qui se regroupent autour d'idées politiques qui n'ont pas leur place dans les médias mainstream, soit parce qu'elles sont strictement interdites, hein. Il y a aussi énormément de choses assez nauséabondes là-dedans, du racisme, de l'homophobie, énormément de choses que la loi censure, mais il y a bien plus de choses encore qui ont tout simplement été exclues par un mécanisme d'autocensure qui aujourd'hui touche à ses limites dans la mesure où il se retrouve en très petite minorité.
Autre phénomène, peut-être inédit, c'est que du coup, ils trouvent, les Gilets jaunes, sur ces plateformes, un ancrage virtuel pour un mouvement qui se veut être la voix des territoires, celui de la France périphérique. Ça, c'est assez étonnant. Michel Vivorca, dans Libération récemment, disait que cette articulation du virtuel et du territorial est d'une grande intelligence. Alors, je ne sais pas si vous la qualifiez avec un jugement, mais c'est en tout cas assez inédit.
Oui, c'est effectivement très intelligent. Par contre, c'est en pleine mutation, et si en perpétuelle mutation, aujourd'hui je pense pas qu'on puisse qualifier les Gilets jaunes de ce mouvement rural. Ça a commencé comme ça, c'est absolument indéniable. Les 15 premiers jours des Gilets jaunes, typiquement, je me souviens avoir téléchargé des centaines de photos montrant la foule des Gilets jaunes pour essayer de trouver quoi que ce soit qui a un rapport avec la diversité. Elle était parfaitement absente. Et puis elle est arrivée. Aujourd'hui elle est là, on la voit. Et ça montre très clairement que ce mouvement est protéiforme, multiforme, multicentré, et qu'il est en pleine évolution au jour le jour. Et ça, vraisemblablement, on ne peut que pointer les réseaux sociaux.
Ça fait beaucoup de temps qu'on nous parle aussi de la fracture numérique. Est-ce à dire pour vous, Fabrice Eppelboin, que la fracture numérique ne coïncide pas forcément avec la fracture sociale ?
La fracture numérique, c'est une marotte de politique qui consiste à vouloir poser des infrastructures de fibre optique la plupart du temps dans les campagnes. Ça correspond à des problématiques de budget négociées à l'Assemblée nationale. Ça ne reflète pas une réalité dans les usages. On voit bien aujourd'hui que à tous les ronds-points, tout le monde a un smartphone et tout le monde est sur Facebook ou WhatsApp à échanger des informations. Donc fracture numérique, je pense vraiment que c'est pas un faux problème, ça correspond à un vrai problème d'infrastructure du territoire. Hein. Mais c'est l'arbre qui a caché une immense forêt, et c'est l'arbre qui a caché le fait que tout le clan des progressistes est aujourd'hui totalement dépassé par le progrès, et tout le clan de ce qu'on nomme populiste est aujourd'hui totalement immergé par le progrès. On s'aperçoit que d'un point de vue politique, c'est le cas depuis une génération. Donc on est dans une inversion totale de la prise de conscience de la réalité de la situation de nous, êtres humains, face au progrès et du camp du bien et du mal, tel qu'il est présenté dans les médias mainstream, par rapport à son appréhension au progrès. Il faut bien réaliser que le clan qui nous dirige, le clan dominant, est totalement dépassé par les événements, alors que de toute évidence, les fameux populistes se saisissent à merveille de ces progrès technologiques. Ça devrait poser question.
C'est l'arbre de l'accès qui finalement a caché la forêt des usages sur ce point. Je vous propose d'écouter juste la sociologue Dominique Pasquier. Elle s'est penchée sur les usages des réseaux dans les familles rurales populaires. C'était pour son ouvrage L'Internet des familles modestes. Elle montre comment la plateforme bleue Facebook notamment a modifié aussi les modes de vie. Elle était interrogée par Radio Néo.
La manière dont ils formulent les choses, alors je dirais que peut-être du point de vue des résultats, les sujets de discussion, c'est beaucoup la vie privée, beaucoup plus que dans des milieux plus diplômés où j'ai pu analyser d'autres comptes et les regarder, on voit que le travail occupe une place très importante dans les descriptions de la vie, mais parce que qu'est-ce qu'on a à raconter quand on a fait le ménage dans la journée, ben on a moins de choses à raconter que quelqu'un qui est cadre dans une entreprise. Et puis surtout, la manière de parler, ben après tout, c'est de l'écrit, hein, Facebook, après priori. Internet, c'est de l'écrit. C'est pas facile, quand on a arrêté l'école à 15 ans, de se confronter à un univers d'écrit, qui est un univers qui a été conçu par des classes supérieures, des gens diplômés, qui sont très à l'aise avec l'écriture. Alors là, on voit bien que c'est des gens qui entrent dans l'écriture en ayant un peu peur. Et du coup, il y a tous ces échanges, c'est-à-dire il y a beaucoup de liens partagés, presque beaucoup plus que d'échanges écrits. Et ce qu'on partage, c'est des mots qu'on trouve ailleurs ou des images.
Est-ce qu'aujourd'hui, on est tous égaux devant les réseaux, Fabrice Ebelpoint ?
Pas du tout, vraiment pas. Souvent, mes élèves me posent cette question. Et il se trouve que j'ai un échantillonnage d'élèves et puis que ceux qui viennent vers moi sont plutôt issus de milieux, on va dire de gauche pour caricaturer les choses. Et je leur fais cette analogie. Si tes parents étaient des fachos, tes usages politiques de Facebook, tu les aurais appris à 9 ans. Et c'est ton père qui te l'aurait appris ou ta mère. C'est absolument pas le cas dans les familles qui sont issues, on va dire, de mouvements politiques mainstream. On a un décalage d'une génération entre les pratiques politiques liées aux réseaux sociaux du camp des progressistes et du camp des populistes. Bien que ces terminologies soient vraiment très très discutables, mais il faut bien s'adapter au modèle de pensée. Oui, il faut bien s'adapter au modèle de pensée et saisir des concepts qui sont, on va dire, relativement bien répartis dans la société. On fait face vraiment à tout un courant de pensée qui, du fait qu'il est sur Internet et exclusivement sur Internet depuis une génération, a été transformé, modifié, s'est façonné avec ces outils et se retrouve aujourd'hui comme un poisson dans l'eau. Et face à des médias mainstream qui sont toujours, depuis maintenant plus de 20 ans, comme une poule face à un couteau quand il s'agit d'aborder la problématique de la technologie.
Vous avez évoqué les printemps arabes, on pourrait citer Occupy Wall Street, Nuit Debout, Anonymous, de qui s'inspire, de quel mouvement s'inspirent les gilets jaunes dans leur manière de procéder, de s'exprimer?
Alors il n'y a pas tant d'inspiration que ça, parce qu'il n'y a pas de conception. Nuit Debout, on est face à un phénomène qui a été conçu par un homme et qui avait clairement une intention politique, et qui plus est, qui est quelqu'un d'extrêmement créatif en matière de lutte sociale, c'est François Ruffin. Là, on est face à un phénomène spontané, donc dire qu'il a été inspiré par Anonymous ou autre chose, c'est se leurrer. Il est né de conditions technologiques. Anonymous aussi est une forme de contestation sociale née de conditions technologiques. Ils ne sont pas tout à fait les mêmes d'ailleurs que Facebook. Anonymous est né d'échanges à travers des forums comme 4chan, dans lequel l'identité n'existe pas et où l'échange se fait essentiellement sous forme d'images et de toute façon éphémère, il n'y a pas d'archives. Ces conditions du lien social ont créé des formes de lutte sociale, en l'occurrence Anonymous, qui est très intéressant parce qu'il sert de canevas pour essayer de comprendre des mouvements comme les gilets jaunes. Typiquement, essayer de trouver une plateforme de négociation chez les gilets jaunes est complètement aberrant. Vous allez avoir une compilation. Ça n'a aucun sens et c'est de toute façon nécessairement contradictoire. Essayer de trouver une représentativité chez les gilets jaunes est complètement aberrant. Ce genre de mouvement tire sa force du fait qu'il n'a pas de représentativité, qu'il n'a pas d'intermédiaire, qu'il n'y a pas d'individu réellement au sein du mouvement, pas dans des proportions telles que Anonymous, mais l'individu ne représente pas le groupe, et le groupe en tant que tel est une force qui n'est pas pensée pour négocier, pour interagir, pour échanger, pour dialoguer. Elle est pensée pour s'opposer et uniquement s'opposer jusqu'à ce qu'elle s'épuise ou jusqu'à ce que le système auquel elle s'oppose s'effondre. C'est ce qui s'est passé en Tunisie.
Donc c'est sans fin et passablement inquiétant.
C'est sans fin et passablement inquiétant, même si par l'effet du Saint-Esprit, l'intervention du président hier calmait les esprits, ce qui ne semble pas du tout être le cas, il y aura toujours un phénomène résiduel des gilets jaunes et il ne disparaîtra pas tant que le cœur de leurs revendications, pas celles affichées, le cœur de leurs revendications ne seront pas satisfaites. Et le cœur de ces revendications, c'est exactement les mêmes que le printemps arabe, ça tient en deux mots, dignité et démocratie.
Vous n'avez pas dit justice sociale?
Non, parce que ça, c'est une clé de lecture qui est propre au mouvement du XXe siècle. Mmh. Et toutes les clés de lecture propres au mouvement du XXe siècle vont se heurter à l'incompréhension du phénomène. Compter le nombre de manifestants, ça n'a pas de sens. Discuter de la cohérence de la plateforme de revendication, ça n'a pas de sens. Essayer de trouver des interlocuteurs qui soient des représentants ou des porte-parole, ça n'a pas de sens. Et comme les médias et les politiques ne savent interagir qu'avec ce type de mouvement, on va malgré tout le forcer à rentrer dans un moule et on va avoir ce à quoi on assiste aujourd'hui sur les plateaux d'information, on va avoir des gens qui ne représentent qu'eux-mêmes et qui vont venir discuter avec des gens qui sont habitués à interviewer des représentants politiques ou des représentants syndicaux. Ça ne donnera rien.
Ils ne représentent qu'eux-mêmes, mais c'est vrai que Facebook a aussi permis de mettre en avant des visages, des porte-voix. Ça a été le cas d'Éric Drouet, le chauffeur routier. Ça a été le cas de Jacqueline Mourot, qu'on entendait en introduction avec sa vidéo. Elle est hypnothérapeute. Ça a été le cas de Maxime Nicole, à travers ce groupe qu'il a aussi constitué, assez suivi, et son Fly Rider. Ce sont des visages, des voix qui émergent, mais qui ne sont pas représentatives.
Et qui ne prétendent que très rarement l'être. Et chaque fois que quelqu'un se détache de ce groupe avec une vague mission de représentation, le groupe s'en détache immédiatement. Il y a un vrai rejet de la démocratie représentative. Ils l'ont exprimé de façon très claire lors des premières approches entre Matignon et les Gilets jaunes. Cette tentative d'imposer dans une négociation ministérielle un Facebook Live, qui évidemment semblait complètement incohérente aux yeux des gouvernants, parce que c'est pas du tout comme ça qu'on mène une négociation ministérielle, c'est l'expression du rejet absolu de la démocratie représentative. Elle est aujourd'hui malade, elle représente pas grand chose, et du coup ce mouvement des Gilets jaunes porte en son sein ce rejet. Il est impératif de renouveler en profondeur le système démocratique, la 5e République, très clairement, si on veut mettre fin à ce type de mouvement et aboutir à quelque chose où ces gens se sentent faire partie de la nation.
Alors est-ce que l'exécutif, est-ce que la majorité doivent du coup adapter leur réponse, leur mode de communication ou d'information sur cette contestation ubérisée? On a vu ces derniers jours la majorité tenter par exemple, avant la mobilisation de samedi, d'aller convaincre à la source en postant des vidéos appelant au calme derrière le hashtag Stop Violence. Vous moquez pas, c'était quand même une tentative. Est-ce que c'était pour eux le début d'une prise de conscience des enjeux politiques liés aux médias sociaux pour vous?
Alors,
Fabrice,
non, là, dans ce cas précis, très drôle du hashtag Stop Violence, je crois que c'est de ça dont on parle sur Twitter et Facebook, qui montrait une série de politiques absolument terrorisées, pris en vidéo dans des conditions faussement amateurs, ce qui renforçait l'impression de peur qu'on lisait sur leur visage, expliquant et étant à deux doigts de faire la morale sur le fait que la violence c'est mal, tout en ayant une actualité environnante qui montrait bien que la seule violence légitime, c'est celle de l'État. C'était catastrophique en termes de... Au contraire, ça avait plutôt tendance à souffler sur les braises. Ils ne comprennent pas ce à quoi ils ont affaire. Ils n'arrivent pas à adapter leur ton. Et surtout, ils ne peuvent pas, de toute façon, entendre ce besoin de renouveau démocratique, vu que ça consiste à les nier eux. Donc on est dans une impasse là-dessus.
Donc là sont les enjeux politiques pour vous, qui sont incompris et donc impossible à transformer en acte.
On est vraiment sur dignité et démocratie. Dignité, alors c'est évident que la dignité ça passe par plus d'argent, mais c'est loin d'être suffisant, on n'achète pas la dignité, ça passe par plein d'autres choses. Et démocratie, on est obligé aujourd'hui de faire face au fait que, à travers ce système à deux tours qu'est la présidentielle et l'alignement du quinquennat sur le mandat de député, on est dans une impasse d'un point de vue démocratique. Cette démocratie n'est pas du tout représentative. On a les pleins pouvoirs pour, grosso modo, 24,5% des électeurs qui se sont prononcés, 20% des inscrits. C'est quand même la preuve que non, ce n'est pas une démocratie. Et qu'il est parfaitement légitime qu'une écrasante majorité de la population considère que notre système n'est pas une démocratie. Si on ne répond pas à cette attente, on va la voir ressurgir de toutes parts.
Est-ce qu'il y a aujourd'hui une possibilité que Facebook reste la plateforme essentielle d'échange, de lieu de mobilisation, ou est-ce que vous pensez que la contestation va muter vers d'autres, vers d'autres plateformes?
Alors,
d'autres
distinguons la mutation de la contestation en tant que telle et le transfert vers d'autres outils servant à la contestation.
C'était ça ma question.
Pour ce qui est du transfert vers d'autres outils, ça a déjà commencé. On a déjà un passage vers WhatsApp avec une utilisation très intéressante pour les gens qui n'utilisent pas du tout WhatsApp comme ça, mais vraiment très intéressante. Il y a des collègues à vous, à la Maison de la Radio, qui ont été sur le terrain voir comment s'utiliser WhatsApp pour transférer l'information d'un rond-point à un autre. C'est vraiment fascinant. C'est certainement pas une bonne idée parce que WhatsApp, ça a été quand même l'instrument de la victoire de Bolsonaro au Brésil. Mais toujours est-il qu'on a déjà une évolution sur les outils. Si jamais il devait y avoir des tentatives de disruption sur Facebook, de censure ou pris comme tel, c'est clair que tout le monde se décalerait sur d'autres outils. C'est un mécanisme classique. Le problème est que là, contrairement au printemps arabe, en tout cas au démarrage du printemps arabe, on n'a pas affaire à des gens qui sont très alertes sur les technologies. Et autant, durant le printemps arabe, on utilisait des logiciels libres, des technologies ouvertes, et en s'assurant d'une vraie sécurité informatique, autant là, on utilise des GAFA et on est sous souveraineté américaine. Donc c'est très clairement dans une extraterritorialité qu'a lieu cette révolution.
Donc sous surveillance aussi.
Bien sûr.
Ça permet d'un côté de mesurer en temps réel les évolutions du mouvement, les points de rencontre, etc.
Tout à fait.
Est-ce qu'il y a des risques de manipulation? C'est ce qui est évoqué depuis beaucoup.
Il n'y a que ça. On a déjà assisté en France à trois petites tentatives pour manipuler soit la perception des événements, soit les événements eux-mêmes. Il y a de fortes chances que ces tentatives de manipulation qui viennent très certainement d'États étrangers se multiplient. Pour l'instant, il n'y a rien d'affolant. On a évidemment assisté aux fameux fake news dans tous les sens, de tous les bords, qui ont eu un réel impact sur la dynamique du mouvement. On va assister à tout ça de façon grandissante dans les semaines qui viennent, et il va falloir qu'on se fasse à l'idée que ça fait partie du territoire médiatique et qu'il va falloir vivre avec tout ça de façon plus constructive que le debunking de fake news que les médias mainstream ont mis en place, de façon plus bienveillante probablement et de façon moins méprisante, en tout cas tel que c'est perçu.
Il faut bien faire quelque chose en même temps.
Bien sûr, mais il faut avant tout remettre en question le système.
Il n'y aura personne pour modérer. Il n'y aura personne pour s'assurer au sein de ces plateformes que l'information n'est pas manipulée.
C'est très déconcertant pour des gens qui étudient ça depuis 10 ans de faire face à ce genre de situation. Ça m'est arrivé 2 fois dans ma carrière sur 2 sujets d'études qui sont les miens. La surveillance de masse avec l'arrivée de l'affaire Snowden et avec Trump et maintenant les Gilets jaunes, les problématiques d'interférence entre la société, l'évolution de la société et les réseaux sociaux. Tout ça est une vieille histoire. Tout ça existe depuis des lustres. Tout ça est étudié depuis 10 ans. Laissez-moi vous citer quelques exemples célèbres. La première élection présidentielle d'une grande démocratie à se faire disrupter massivement par des interférences sur les réseaux sociaux, c'est la Corée du Sud et c'est en 2012. Ça date. Tout ça va continuer et tout ça de toute façon amène à une transformation radicale et de la démocratie et du système médiatique. Je vous invite à regarder celui de la Corée du Sud, il est absolument fascinant en termes d'hyper-évolution d'un système médiatique dans un pays qui est baigné par les technologies dans des proportions qu'on a du mal à imaginer en France. Tout ça va changer, tout ça va évoluer parce que très concrètement, soit on reste en démocratie et il va falloir faire de la place à ceux qu'on a exclus jusqu'ici, soit on passe sur un autre système et on peut quand même présupposer le fait que Emmanuel Macron n'est pas calibré pour être un dictateur. Et donc on passera à autre chose, de façon radicale.
Sur cette question de la manipulation, les soupçons d'ingérence qu'on a pu entendre, question qui peut paraître faussement naïve, mais sincèrement, à quelle fin et qui pourrait avoir intérêt pour vous à manipuler l'opinion française?
Tout le monde. On est dans une situation géopolitique assez complexe. L'arrivée de Donald Trump a hyper complexifié la lecture géopolitique, les rapports de force. Et on a une quantité croissante de nations qui ont ces capacités d'intervention. Les Russes sont loin d'être les premiers en termes de puissance de frappe. Par contre, ils sont les plus populaires et les plus faciles pour trouver une explication à nos malheurs. Et c'est pour ça qu'ils se retrouvent la plupart du temps sur le devant de la scène. Mais très concrètement, les premiers à s'être fait attraper la main dans le sac, à utiliser ce type d'outils, ce sont les Américains. Ça date de 2010, dans l'opération Cyberdawn en Libye. Il y a une myriade d'autres nations qui se sont fait pincer. Je pense au CGHQ, l'Angleterre, qui a... à l'occasion de l'affaire Snowden, s'est vu mettre à nu ces outils qui servent à manipuler l'opinion publique. Les Israéliens font l'objet d'une investigation, dans l'investigation du procureur Mueller aux États-Unis pour une interférence dans la campagne électorale de Trump qui consistait à taper sur les divisions de la société américaine et visiblement était accompagné, à en croire, je crois, le Washington Post ou le New York Times et Bloomberg, était accompagné de représentants saoudiens et émiratis pour justement financer toute cette opération de déstabilisation, et ça a été négocié avec le fils de Donald Trump. Que vous dire encore, récemment on a trouvé un site qui se faisait passer pour une fausse ONG suisse qui, de toute évidence, et je ne vais rien affirmer sans conditionnel, mais semble bien être qatari. Et puis on a bien sûr fait les gorges chaudes et toute la presse s'est levée dès qu'on eut la première trace d'un botnet russe qui, très objectivement, n'avait pas la moindre capacité à influencer l'événement et tout juste a vaguement interféré dans la perception à l'international de l'événement. Mais il y a beaucoup, beaucoup de forces en puissance et elles sont toutes opérationnelles sur le terrain français.
Merci beaucoup à vous, Fabrice Eppelboin, d'être passé autour de cette grande table. Un grand merci à toute l'équipe qui a préparé et programmé cette émission. À Maya Neskovic et avec Laura Dutèche-Pérez pour la grande table des idées. À Oriane Delacroix avec Henri Leblanc pour la grande table culture. Avec l'aide précieuse de Jordan Joseph et de Jeanne Copé. À la réalisation aujourd'hui, c'était Milena Elig avec Emmanuel Morse-Duncan. Bel après-midi sur France Culture.